Qu'est-il arrivé aux hominidés qui auraient pu être plus intelligents que nous? De neuroscientifiques disent qu'une race d'humains aujourd'hui disparus avait de grands yeux, des visages d'enfants et une intelligence moyenne d'environ 150, ce qui en fait des génies parmi les Homo sapiens. Par Gary Lynch et Richard Granger, 28 décembre 2009, 1h. Le texte suivant est un extrait du livre Big Brain de Gary Lynch et Richard Granger, et ils représentent leur propre théorie sur les boscopes. La théorie est controversée, voire, par exemple, le point de vue très différent du paléanthropologue John Hawkes. À l'automne 1913, deux fermiers se disputaient au sujet des fragments de crânes d'hominidés qu'ils avaient découverts en creusant un fossé de drainage. L'emplacement était Boscope, une petite ville à environ 200 miles à l'intérieur des terres de la côte et de l'Afrique du Sud. Ces agriculteurs africanaires, à leur crédit durable, ont eu la présence d'esprit de remarquer qu'il y avait quelque chose de distinctement étrange dans les os. Ils ont apporté la découverte à Frédéric W. Fitzsimon, directeur du musée de Port-Élisabeth, dans une petite ville à la pointe de l'Afrique du Sud. La communauté scientifique sud-africaine était petite, et le crâne a rapidement attiré l'attention de S.H. Houghton, l'un des rares paléontologues formellement formés du pays. Il a rapporté ses découvertes lors d'une réunion de 1915 de la Royal Society of South Africa. La capacité crânienne a dû être très grande, a-t-il dit, et le calcul par la méthode de Brooke donne un chiffre minimum de 1832 cm3. Le crâne de Boscope, semble-t-il, abritait un cerveau peut-être 25% ou plus grand que le nôtre. Boscopesque, Musée américain d'histoire naturelle. Une reconstruction esquissée du crâne de Boscope réalisée en 1918. Les os nombrés représentent l'os récupéré. Crédit, avec l'aimable autorisation du Musée américain d'histoire naturelle. L'idée que des gens au cerveau géant marchaient il n'y a pas si longtemps dans les plaines poussiéreuses d'Afrique du Sud était suffisamment choquante pour attirer les sommités en Angleterre. Deux des anatomistes les plus éminents de l'époque, tous deux experts dans la reconstruction des crânes, ont pesé avec des opinions généralement favorables aux conclusions de Houghton. Le scientifique écossais Robert Broom a rapporté que nous obtenons pour la capacité crânienne corrigée du crâne de Boscope le chiffre très remarquable de 1980 cm3. Remarquable en effet, ces mesures indiquent que la distance entre Boscope et les humains est plus grande que la distance entre les humains et leurs prédécesseurs Homo erectus. Le très grand crâne de Boscope pourrait-il être une aberration? Cela pourrait-il avoir été causé par une hydrocéphalie ou une autre maladie? Ces questions ont été rapidement devancées par de nouvelles découvertes de plusieurs de ces crânes. Comme si l'histoire de Boscope n'était pas déjà assez étrange, l'accumulation de restes supplémentaires a révélé une autre caractéristique bizarre, ces personnes avaient de petits visages enfantins. Les anthropologues physiques utilisent le terme de podorphose pour décrire la rétention des caractéristiques juvéniles à l'âge adulte. Ce phénomène est parfois utilisé pour expliquer des changements évolutifs rapides. Par exemple, certains amphibiens conservent des branchies ressemblantes à des poissons même lorsqu'ils sont complètement matures, et ont dépassé leur période d'occupation de l'eau. Certains disent que les humains sont pédomorphes par rapport aux autres primates. Notre structure faciale ressemble à celle d'un singe immature. L'apparence de Boscope peut être décrite en termes de ce trait. Un adulte européen actuel typique, par exemple, a un visage qui occupe environ un tiers de sa taille globale de crâne. Boscope a un visage qui ne prend qu'environ un cinquième de sa taille de crâne, plus proche des proportions d'un enfant. L'examen des os individuels a confirmé que le nez, les joues et la mâchoire étaient tous enfantins. La combinaison d'un grand crâne et d'un visage immature semblerait résolument inhabituelle aux yeux modernes, mais pas tout à fait inconnue. De tels visages ressortent des couvertures d'innombrables livres de science-fiction et sont souvent associés à des ravisseurs extraterrestres dans les films. Le naturaliste Lorin Eisley a fait exactement ce point dans un passage lyrique et effrayant de son livre populaire, The Immense Journey, décrivant un fossile de Boscope. Il y a juste une chose que nous n'avons pas tout à fait osé mentionner. C'est ça, et vous ne le croirez pas. Tout est déjà arrivé. Là-bas dans le passé, il y a 10 000 ans. L'homme du futur, avec le gros cerveau, les petites dents. Il a vécu en Afrique. Son cerveau était plus gros que votre cerveau. Son visage était droit et petit, presque un visage d'enfant. Boscope, alors, a été beaucoup parlé et écrit, par nombre des personnalités les plus importantes dans les domaines de la paléontologie et de l'anthropologie. Pourtant, aujourd'hui, bien que les néandertaliens et les Homo erectus soient largement connus, les boscopes sont presque entièrement oubliés. Certains de nos ancêtres nous sont clairement inférieurs, avec des cerveaux plus petits et des visages semblables à des singes. Ils sont faciles à se moquer et à accepter comme nos précurseurs. En revanche, le fait même d'un ancien ancêtre comme Boscope, qui ne ressemble pas à un singe, et semble en fait, à bien des égards, avoir eu des caractéristiques supérieures aux nôtres, était destiné à ne jamais être populaire. L'histoire des études évolutionnistes a été marquée par l'idée intuitivement attrayante, presque irrésistible, que tout le grand processus conduit à une plus grande complexité, à des animaux plus avancés que leurs prédécesseurs. Les théories de l'évolution pré-Darwin ont été construites autour de cette idée. En fait, la grande et radicale contribution de Darwin et de Wallace a été de rejeter la notion de progrès et de la remplacer par une sélection parmi un ensemble de variations aléatoires. Mais les gens n'échappent pas facilement à l'idée de progrès. Nous sommes attirés par l'idée que nous sommes le point final, le summum non seulement des hominidés mais de toute vie animale. Boskop soutiennent le contraire. Ils disent que les humains avec de gros cerveaux, et peut-être une grande intelligence, ont occupé une partie substantielle de l'Afrique australe dans un passé pas très lointain, et qu'ils ont finalement cédé la place à des homo sapiens au cerveau plus petit, peut-être moins avancé, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous avons vu des rapports de taille de cerveau Boskop allant de 1650 à 1900 cm3. Supposons qu'un cerveau Boskop moyen est environ 1750 cm3. Qu'est-ce que cela signifie en termes de fonction? En quoi une personne avec un tel cerveau serait-elle différente de nous? Nos cerveaux sont environ 25% plus gros que ceux de la fin de l'Homo erectus. Nous pourrions dire que la différence fonctionnelle entre nous et eux est à peu près la même qu'entre nous et Boskop. L'expansion du cerveau modifie ses proportions internes de manière hautement prévisible. Du singe à l'homme, le cerveau se développe environ 4 fois, mais la majeure partie de cette augmentation se produit dans le cortex, pas dans des structures plus anciennes. De plus, même au sein du cortex, les zones qui se développent de loin le plus sont les zones d'association, tandis que les structures corticales telles que celles contrôlant les mécanismes sensoriels et moteurs restent inchangées. En passant d'humain à Boskop, ces zones d'association sont encore plus étendues de manière disproportionnée. La taille du cerveau de Boskop est environ 30% plus grande que la nôtre, c'est-à-dire un cerveau de 1750 cm3 pour notre moyenne de 1350 cm3. Et cela conduit à une augmentation du cortex préfrontal de 53%. Si ces relations de principe entre les parties du cerveau étaient vraies, alors Boskop aurait eu non seulement un cerveau d'une taille impressionnante, mais un cortex préfrontal d'une taille inconcevable. Le cortex préfrontal est étroitement lié à nos fonctions cognitives les plus élevées. Cela a du sens dans le flux complexe d'événements qui se déversent dans le cerveau, il place le contenu mental dans des séquences et des hiérarchies appropriées, et il joue un rôle essentiel dans la planification de nos actions futures. En termes simples, le cortex préfrontal est au cœur de nos pensées les plus flexibles et tournées vers l'avenir. Alors que votre propre zone préfrontale peut relier une séquence de matériel visuel pour former une mémoire épisodique, le Boskop peut avoir ajouté du matériel supplémentaire à partir de sons, d'odeurs, etc. Là où votre souvenir d'une promenade dans une rue parisienne peut inclure l'image visuelle mentale du vendeur de rue, du bistrot et de la charmante petite église, le Boskop peut aussi avoir eu la musique du bistrot, les conversations d'autres promeneurs, et la fenêtre particulière au-dessus de la porte de l'église. Hélas, si seulement le Boskop avait eu la chance de flâner sur un boulevard parisien. L'expansion des régions d'association s'accompagne d'augmentations correspondantes de l'épaisseur de ces grands faisceaux d'axones, les chemins de câbles, reliant l'avant et l'arrière du cortex. Ceux-ci traitent non seulement les entrées, mais, dans nos cerveaux plus larges, organisent les entrées en épisodes. Les Boskops sont peut-être allés plus loin encore. Tout comme une augmentation quantitative des singes aux humains a pu générer nos capacités linguistiques qualitativement différentes, le saut de nous-mêmes à Boskop a peut-être généré de nouvelles capacités mentales qualitativement différentes. Nous activons en interne plusieurs pensées à la fois, mais nous ne pouvons en récupérer qu'une à la fois. Le cerveau de Boskop aurait-il pu atteindre la capacité de récupérer une mémoire tout en traitant sans effort les autres en arrière-plan, un effet d'écran partagé permettant beaucoup plus de puissance d'attention? Chacun de nous équilibre le monde qui est réellement là-bas avec la version interne de notre esprit. Le maintien de cet équilibre est l'un des défis quotidiens de la vie. Nous agissons parfois selon notre vision imaginaire du monde, parfois en effrayant ceux qui nous entourent. Pourquoi me criez-vous après? Je n'étais pas en colère contre vous, vous pensiez seulement que je l'étais. Nos gros cerveaux nous donnent de tels pouvoirs d'extrapolation que nous pouvons extrapoler directement hors de la réalité, dans des mondes possibles mais que jamais vraiment arrivés. Les plus grands cerveaux et les représentations internes étendues de Boskop leur ont peut-être facilité la tâche de prédire, et d'interpréter avec précision le monde, de faire correspondre leurs représentations internes avec des événements externes réels. Peut-être, cependant, cela a-t-il aussi rendu les Boskop excessivement internes, et autoréflexifs. Avec leurs idées peut-être étonnantes, ils sont peut-être devenus une espèce de rêveur avec une vie mentale interne au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Même si la taille du cerveau ne représente que 10 à 20% du score d'un test de QI, il est possible de conjecturer quel type de score moyen serait obtenu par un groupe de personnes dont le cerveau est 30% plus grand. nous pouvons facilement calculer qu'une population avec une taille moyenne de cerveau de 1750 cm3 devrait avoir un QI moyen de 149. C'est une partition qui serait étiquetée au niveau du génie. Et s'il y avait une variabilité normale parmi les boscopes, comme parmi nous, alors peut-être que 15 à 20% d'entre eux devraient obtenir un score supérieur à 180. Dans une salle de classe avec 35 enfants de boscope à grosse tête et au visage de bébé, vous auriez probablement rencontré 5 ou 6 avec des scores de QI dans la fourchette supérieure de ce qui a jamais été enregistré dans l'histoire humaine. Les boscopes ont coexisté avec nos ancêtres Homo sapiens. Tout comme nous voyons l'ancien Homo erectus comme un primitif sauvage, boscope nous a peut-être considérés un peu de la même manière. Ils sont morts, et nous avons vécu, et nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir pourquoi. Pourquoi n'ont-ils pas surpassé les hominidés au cerveau plus petit comme nous et se sont répandus sur la planète? Peut-être qu'ils ne voulaient pas. Des voies cérébrales plus longues conduisent à des hiérarchies de mémoire plus grandes et plus profondes. Celles-ci confèrent une plus grande capacité à examiner, et à écarter plus de voies aveugles, avoir plus de conséquences d'un plan avant de le mettre en œuvre. En général, cela nous permet de réfléchir. Si Boscope avait eu des chaînes de réseaux corticaux plus longues, des chaînes d'assemblage mental plus longues, ils auraient créé des chaînes de classification plus longues et plus complexes. Lorsqu'ils ont regardé aussi loin qu'ils le pouvaient, avant de choisir une voie, ils auraient vu plus loin que nous ne pouvons, plus de résultats potentiels, plus de coûts, et davantage possibles en aval. Au fur et à mesure que les résultats possibles d'un plan deviendront visibles, la variance entre les jugements entre les individus diminuera probablement. Il y a beaucoup moins de chemins corrects, des chemins intelligents, qu'il n'y a de chemin. On soutient parfois que l'illusion du libre arbitre vient du fait que nous ne pouvons pas juger adéquatement tous les mouvements possibles, avec pour résultat que nos choix sont basés sur des informations imparfaites, parfois appauvries. Peut-être que les boscopes étaient piégés par leur capacité à voir clairement où les choses se dirigeraient. Peut-être étaient-ils prisonniers de ces cerveaux majestueux. Il y a une autre explication possible, encore une fois poignante, à la disparition des grands cerveaux. Peut-être que toute cette réflexion n'avait aucune valeur de survie particulière en 10 000 ans avant J.C. Le grand génie de la civilisation est qu'elle permet aux individus de stocker la mémoire et les règles de fonctionnement en dehors de leur cerveau, dans le monde qui les entoure. Le cerveau humain est une sorte d'unité centrale de traitement fonctionnant sur plusieurs disques mémoire, certains stockés dans la tête, certains dans la culture. Faute du disque dur externe d'une société alphabétisée, les boscopes étaient incapables d'exploiter le vaste potentiel enfermé dans leur cortex élargi. Ils sont nés quelques millénaires trop tôt. De toute façon, les boscopes sont partis, et plus on en apprend à leur sujet, plus ils nous manquent. Leur disparition a probablement été progressive. Un grand crâne n'était pas propice à des naissances faciles, et donc une pression intra-groupe vers des têtes plus petites était probablement toujours présente, comme c'est toujours le cas chez les humains d'aujourd'hui, qui ont un taux de mortalité infantile anormalement élevé dû aux bébés à grosse tête. Cette pression, ainsi que l'éventuel métissage avec des groupes migrateurs de peuples au petit cerveau, peut avoir conduit à une diminution progressive de la fréquence des gènes boscopes dans la population croissante de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Là encore, comme cela est trop évident, l'histoire humaine a souvent été une histoire de sauvagerie. Le génocide et l'oppression semblent primitifs, tandis que les institutions modernes des écoles aux hospices semblent éclairées. Nous aimons sûrement penser que notre avenir laisse présager davantage ce dernier que le premier. Si l'apprentissage et la gentillesse sont des signes de civilisation, peut-être que nos cerveaux presque gros se battent contre leur atavisme résiduel, luttant pour se développer. Peut-être que les boscopes surnaturellement civilisés n'avaient aucune chance contre nos ancêtres barbares, mais pourraient être des chefs de file de la société s'ils étaient parmi nous aujourd'hui. Peut-être que des traces de boscopes, et leur nature inhabituelle, persistent dans des coins isolés du monde. Les anthropologues physiques rapportent que les caractéristiques de boscopes apparaissent encore occasionnellement dans les populations vivantes de Bushmen, ce qui soulève la possibilité que le dernier de la race ait marché dans le Transvaal poussiéreux dans un passé pas trop lointain. Certains gènes restent dans une population ou se mélangent aux populations environnantes par croisement. Les gènes peuvent rester à la périphérie, sans se fixer largement dans la population en général ni être entièrement éliminés du pool de gènes. À environ 160 km du site de découverte original de boscopes, d'autres fouilles ont été effectuées par Frédéric Fitzsimon. Il savait ce qu'il avait découvert, et cherchait avec impatience plus de ses crânes. Sur son nouveau site de fouilles, Fitzsimon est tombé sur une construction remarquable. Le site avait été à un moment donné un centre d'habitation communale, il y a peut-être des dizaines de milliers d'années. Il y avait beaucoup de roches ramassées, des restes d'os et des squelettes d'humains d'apparence normale. Mais d'un côté du site, dans une clairière, se trouvait une tombe unique, soigneusement construite, construite pour un seul occupant, peut-être la tombe d'un chef ou d'un sage vénéré. Sa dépouille avait été positionnée pour faire face au soleil levant. Au repos, il paraissait banal à tous égards. Sauf pour un crâne géant. Big Brain est copyright 2008 par les auteurs, et réimprimé avec la permission de Palgrave Macmillan, une division de Macmillan Publishers Limited. Tous les droits sont réservés.